Et avant de démarrer cette bande originale, nous tenions évidemment à évoquer et à penser à la mémoire de Gaspard Ulliel qui nous a malheureusement quitté dans un tragique accident. Demain, nous aurons l'occasion de lui rendre un hommage dans cette bande originale, en réécoutant d'ailleurs les musiques de sa vie, en parlant de son parcours et de son amour pour le cinéma, où il avait le sentiment peut-être un peu d'illégitimité, d'être arrivé comme ça, comme la vie l'avait transbahuté, vie trop courte, qu'il avait transbahuité dans le monde du cinéma, qu'il avait accueilli à bras ouverts avec des Césars, des récompenses, évidemment, qui rendaient hommage à son talent. Et on voulait juste réentendre la voix justement de Gaspard Ulliel avec ce regard qu'il avait sur le monde du cinéma et sur son métier.
Le cinéma est venu à moi totalement par hasard et du coup, il y avait... Je me laissais un peu porter par les choses avec ce sentiment d'illégitimité un peu, en me demandant si c'était vraiment fait pour moi. Et après, voilà, aujourd'hui, je sais que c'est un métier qui me correspond parfaitement et j'ai une réelle passion qui s'est développée au fil des années. Mais au départ, j'étais encore dans une forme de doute.
Gaspard Ulliel, parti trop tôt, toutes nos pensées vont évidemment à sa famille, que nous embrassons fort de tous nos bras, toute notre estime et notre admiration, et qui était toujours quelqu'un de généreux lorsqu'il venait dans cette émission, de souriant, d'avenant et évidemment de talentueux. On en reparlera demain dans la bande originale. Le spectacle continue. Thomas Gohan, la bande originale.
Bonjour.
Avec Léa Gadoboudadi, Morgane Galignan, Florence Mendez, mais oui, j'adore, Jérémy Crédville, ah bah t'es là toi, Tanguy Passureau, Daniel Morin, et nos invités Camille Aguilar et Guillaume de Ton Québec.
Bravo.
Parlons théâtre avec Camille Aguilar, avec Guillaume de Tonquédec. Times Square, c'est une pièce qui va se jouer à partir de vendredi, me semble-t-il. Oui, c'est ça.
Demain ?
Je crois, non ? Il me semble. Demain ou samedi, on va leur demander directement. Au théâtre du Montparnasse, je crois que c'est à partir de samedi.
Voilà.
Au théâtre Montparnasse, on va en parler avec eux. Cette pièce s'appelle Times Square, donc évidemment le blind test, vous le voyez venir.
C'est sûr.
Si ça, voilà.
Ah,
écoute.
Ah oui, j'adore. C'est Barret, ouvre la porte.
Tanguy, oui. Nouga York de Claude Nougaro.
Joli.
Je l'avais.
Joli.
Je jure que je l'avais.
Nouga
York. Bien joué, premier point pour Tanguy. Merci. Qui chante ça, hein?
Leïla?
Oui.
Liza Minnelli?
Non.
Franck Tanguy, Morgan, Jérémy. Francis Matra.
Voilà.
Joli. Ouais.
Qui?
J'ai entendu ton nom.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter.
Parce qu'on va pas chanter depuis les coulisses.
Pour l'instant, on l'entend.
J'ai dû chanter cette chanson à un spectacle scolaire.
Oui, mais attends, on a dit qu'on l'écoutait d'abord.
Oh, quelle horreur.
Moi, je t'écoute, Flo, un spectacle scolaire, vas-y.
Le duo. La technique de management.
Liza Minnelli et Pavarotti. Et j'ai dû jouer Pavarotti.
Tu faisais Pavarotti.
Ouais.
C'est vrai que ça aurait été dommage de rater cette vanne.
Moi j'ai fait un.
C'est pas une vanne, il y a des photos.
Pour l'instant, il y a deux points. Non, t'as les deux points déjà.
Non, il y a un point pour Leïla.
C'est Tanguy.
Oui, c'était moi, Nougaïa.
Qui chante ça?
Morgane.
Non, Morgane.
Jay-Z, Alicia.
Nouga.
Franchement. Si le thème c'était Melun, j'aurais été pas mal.
Il y a un Volpiac.
C'est pas Marotti,
c'est
pas
Marotti, c'est pas Marotti qui chante. Ah oui, c'est elle qui chante.
Ah non, c'était Morgane, de la fin.
Qui chante ça?
Tanguy, le téléphone.
Oui.
Oh. Là-bas. Que la vie porte en toi et tu m'emmèneras un jour.
Qui chante? Oui, un jour. Qui chante ça?
Tanguy!
Oh, Tanguy!
Bah, Englishman in New York.
Quoi? Yes. Non, mais je l'ai dit avant.
Ralenti?
Tu as pas dit ton nom.
Ouais.
Englishman in New York.
Là-bas.
Wow,
c'est un remix.
J'attends.
c'est moins bien que l'original.
Il y a
trop de...
Qui chante ça?
Il le mettra jamais.
Morgan, America.
Non.
Tanguy, oui. Yves Simon.
Joli.
New York. J'ai vu New York.
Oh, wow.
J'ai rêvé New York. Voilà. J'ai rêvé New York. J'ai rêvé New York. New York City serait sa fête. J'ai rêvé New York. J'ai rêvé New York. J'ai rêvé New York. New York City, Sir Hudson.
Yves Simon, bien joué. On en est à 3 points pour Tanguy, 1 pour Morgane, 2 pour Leïla. Bah, Daniel.
Oh, je sais pas. Bah, ouais. On l'a pas lu.
Attends, il en reste un ou pas?
C'est maintenant.
C'est le super banco. J'en souhaite un seul.
Moi aussi.
4 points.
Si tu le mets, c'est parfait.
C'est maintenant.
Titre. Daniel.
Non.
Tanguy.
Gainsbourg.
New York USA. J'ai vu New York USA.
C'est malin. Le mec, il attend. Banco.
Moi je rêvais de LCD Sound System, mais je suis sûr qu'il mettrait pas ça. C'est pas ta playlist, c'est pas ton truc ça. Alors que c'est magique.
Ça c'est génial.
En fait, c'est pour ça que je gagne pas la vitesse.
Tu vas m'engueuler ou quoi?
Hein?
Tu vas m'engueuler?
Oui, je t'engueule parce qu'il n'y a jamais de truc un peu. Voilà quoi.
Voilà.
Le truc sur lequel je danse moi.
Bah, tu plaisantes.
Il y a eu Camaro deux fois.
Il y a Camaro plein de fois.
Oui, mais on entend pas que de ça.
Il y a Corona aussi plein de fois.
Victoire de Daniel Morin qui s'envole Superman. Et merci d'accueillir Camille Aguilar et Guillaume de Tonguedec. Bonjour, merci de venir à ce micro, de présenter la pièce Times Square qu'on a eu la chance de voir avant que vous ne la jouiez au théâtre Montparnasse à partir de ce samedi. Ouais. Camille, elle en soupire.
Bon, ils sont au courant, c'est
elle en angoisse là.
Devant Guillaume de Tonquédec avec l'excellent Marc Fayet, Axel Orient également, une pièce que vous interprétez qui est une sorte de mise en abîme d'ailleurs parce que on est à la fois avec une actrice qui doit préparer un rôle pour une audition sur Roméo et Juliette. Qui va voir un... Alors, un acteur, on ne sait pas trop bien s'il est has-been ou si simplement c'est lui qui refuse les rôles. Mais enfin bref, il est...
très heureux, quoi.
Ouais, c'est ça. Et il est tellement pas heureux que son frère l'héberge, son frère lui apporte de la bouffe, son frère lui glisse de temps en temps un petit billet pour qu'il puisse s'en sortir parce qu'il galère.
Il boit beaucoup.
Il boit énormément parce que dès qu'il ne sait plus quoi dire, il fait « Allez, un whisky !» comme ça. On passe à autre chose. Et cette mise en abîme va vraiment... jusqu'au bout de la pièce puisque la pièce se raconte elle-même à la fin, vous le découvrirez en allant applaudir les acteurs au théâtre Montparnasse, mais c'est surtout un cours magistral sur et un cours de transmission entre une jeune actrice que vous jouez Camille et cet érudit qui est Guillaume de Tonquédec. On pourrait même se dire que c'est un peu ça aussi dans la vie quoi, il a plein de choses à vous raconter aussi Guillaume.
Alors oui, alors c'est Mister Anecdote, c'est pas contre toi mais c'est vrai.
Vas-y balance.
Non mais en même temps c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois il nous apprend plein de choses. Il dit « Ah oh bah tiens, je vous ai pas raconté. Bah, vas-y Guillaume. » Et c'est toujours hyper intéressant en vrai. Il n'est pas encore dans le...
Tonton, non. Il vous prend pas sur les genoux pour vous.
Non.
Non mais quand j'ai subi ça, moi jeune acteur et tout, j'avais les vieux acteurs pour moi qui me racontaient des histoires, des anecdotes, je sais pas possible le jour où ça m'arrivera. Et ça m'arrive avec Camille.
Mais ça reste toujours très intéressant.
Pour le moment.
Toujours très intéressant.
Évidemment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans votre personnage, c'est cette espèce de masterclass. Alors déjà, je sais pas si vous, je parle plus de la pièce cette fois-ci, je parle de vous, Guillaume de Tonquédec, vous avez déjà donné des cours de théâtre et des masterclass.
J'ai donné quelques cours au cours Florent il y a très très longtemps, j'avais adoré ça. Et puis j'avais participé à une émission de Dominique Guillon qui était autour du théâtre, qui était très très intéressante, où on m'avait demandé de venir diriger un acteur. Je lui ai dit qu'il prenne le monologue de La Prune dans Le Prénom, c'est un texte que je connais un petit peu, et puis je pourrais lui donner 2-3 conseils quoi. Donc c'était très émouvant. Ouais, c'était très émouvant et j'adore ça la transmission. Malheureusement j'ai pas le temps ou j'ai pas pris le temps encore de le faire, mais je trouve ça passionnant.
Alors ce qui est fort dans cette pièce, c'est que c'est un rôle que vous interprétez évidemment. Je ne sais pas si vous épousez toutes les théories qui sont énoncées dans la pièce, notamment celle de l'acteur doit avoir deux cerveaux, celui qui joue et celui qui écoute.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une théorie de Diderot aussi, et que, qui est chère toujours au cœur de Michel Bouquet, qui a été mon maître au Conservatoire de Paris. Il parlait de la tête de fer, lui, en tapant derrière sa nuque, comme ça. Il disait, en fait, il y a une partie du cerveau qui contrôle ce que vous devez faire, et une autre partie qui doit lâcher et partir dans les sentiments, dans le délire, dans l'amour, dans la haine, et qui doit lâcher. Mais il faut qu'il y ait le contrôle derrière. Et s'il n'y a pas les deux, c'est pas vraiment de l'interprétation, quoi. C'est le dédoublement de la personnalité quand on joue. Il y a des théories sur le cerveau. Je parlais avec Lionel Nakache, un éminent chercheur sur le cerveau à l'Institut du cerveau, qui me racontait tout ça, ce qui se passe dans le cerveau d'un comédien quand il joue. C'est passionnant.
Et donc, le bouquin dont tu m'en as parlé.
Bah, oui.
C'est le bouquin dont tu parlais, là, l'autre jour.
Le bouquin dont je parlais, il a écrit un livre là-dessus. Ouais.
Parce que du coup, il nous dit, ah, bah tiens, tu devrais peut-être lire.
Mais oui, mais. Et donc, vous apprenez, Camille.
Ouais. Tout le temps.
Et donc.
Mais moi aussi, j'apprends, hein. Parce que elle est avec Axel Orient, ils ont un langage qu'on ne comprend plus aujourd'hui.
Donc, non,
mais je te jure, avec José Paul et Marc Fayet, donc les trois vieux, hein, n'est-ce pas, les quinquas, il y a des moments, quand ils donnent des indications de mise en scène et qu'ils se parlent entre eux, il nous fallait un traducteur de jeunes.
Pour vieux. Sérieux
je te, bah, bien sûr.
Ah, c'est
charmé. Il y a pourtant une scène justement où vous réinterprétez façon moderne Roméo et Juliette. Mm-hmm. Et justement, quand je disais que c'était une mise en abîme où en effet on est dans une pièce de théâtre qui parle de pièces de théâtre et d'écriture de pièces de théâtre, et on ne sait plus trop bien d'ailleurs si on est dans la pièce ou on voit une pièce qui se joue dans la pièce. C'est formidable de rentrer comme ça dans les arcanes et un peu dans votre cerveau et dans votre métier et préparation. Mais alors vous avez deux pièces à jouer, Camille, parce que vous préparez Roméo et Juliette, et donc vous avez dû apprendre aussi la tirade.
Et Juliette, exact. Ça aurait été marrant qu'on me dise fait Roméo. Enfin bon, après on l'a jamais testé, quoi. Tu vois.
Mais donc, non seulement vous jouez du Clément Coche, mais vous jouez aussi du Shakespeare.
Du Shakespeare. Ouais. C'est pas génial, franchement, c'est chouette. Non, José, il voulait le metteur en scène, il voulait que cette partie-là de Roméo et Juliette, c'est la scène du balcon. C'est pas un cliché, elle est belle cette scène. T'aimes bien ?
Bah oui.
Et il voulait que ce soit moderne, que ce soit pas un moment de la pièce où on se dit, oh tiens, ça fait bizarre, là on part dans un truc.
Ça sonne faux, quoi.
Ouais, oui, c'est voilà, c'est ça.
Ou c'est au rez-de-chaussée.
Oui, un petit peu dans le jardin. Et du coup, il voulait quelque chose de naturel. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et ça te fait pas sortir. C'est le sentiment que j'ai. Hein, que ça fait pas sortir de la pièce. On se dit, voilà.
Non, on assiste à un cours d'une jeune comédienne d'un comédien. Et alors, est-ce qu'il est has-been? Est-ce qu'il est aigri? Il parle. Il y a des vannes. D'abord, on rit. Il faut quand même préciser que c'est une comédie.
Mmh. Et qu'il y a parce qu'il est odieux.
On rit beaucoup parce qu'il est odieux.
C'est vrai. Odieux. Odieux, il est d'une mauvaise foi absolue.
C'est pour ça que vous avez été choisi.
Oui. J'ai dit à José et à Clément, vous êtes sûr que je vais jouer ça? J'avais qu'une envie, c'était de jouer ça. C'est ça.
Oui, parce que souvent, on vous donne tellement des rôles de gentil, généralement.
Ouais. Non, c'est un vrai méchant. Quoi. Ouais. Enfin, c'est un vrai méchant généreux. En fait, il est.
Il faut gratter un peu pour comprendre pourquoi il est méchant. Quoi.
Ouais, il est à un moment de sa vie où il a atteint une hyper lucidité, donc il peut balancer sur tout parce qu'il est au bout de sa vie, c'est le cas de le dire. Il pense qu'il rejouera plus jamais, et donc il délivre des vérités. Il est enfin libre d'un certain point de vue. Et donc il délivre des vérités sur cette pauvre jeune fille et sur la vie et sur le métier en général. Donc c'est très 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 drôle.
Parce qu'il s'est perdu en fait. Il s'est un peu perdu.
Il est perdu en fait. Il n'est pas has-been parce qu'il est resté, je pense, un bon acteur. Je pense qu'on perd pas ça quand les gens qui ont été bons le restent.
Est-ce qu'il est perdu ou est-ce qu'il s'est perdu?
Il s'est perdu.
Il s'est perdu et il est perdu les deux. Il est vraiment. C'est vraiment cette jeune fille qui va lui ramener la vie.
C'est sa fraîcheur qui va.
Et surtout, elle a pas peur de lui. C'est ça aussi, c'est qu'il s'entoure parfois de gens comme son frère, qui se laisse un peu écraser parce que lui, il marche dessus. Sauf que là, en face de lui, il y a quelqu'un qui va pas se laisser faire.
Elle répond.
Et j'ai pas peur. Et du coup, il y a un endroit où.
J'ai compris. Elle est encore dans le personnage.
J'ai Camille Aguilar en face de moi. Non, mais il fallait ça, sans blague, Nagui. Il fallait trouver, honnêtement, dans les auditions, de trouver la comédienne qui jouerait le personnage. Il fallait quelqu'un qui s'engage et qui y aille et qui ait pas peur, quoi. Même si derrière, elle peut avoir un peu la trouille, mais en face, elle y va, quoi. Elle est comme ça dans la vie.
Clairement.
Et Axel aussi. C'est une très belle pièce aussi, je le dis souvent. Enfin, les parents vont pouvoir emmener leurs ados ou leurs jeunes adultes au théâtre, parce que c'est une pièce qui parle beaucoup de la transmission. C'est quoi réussir sa vie? C'est quoi vouloir embrasser une carrière artistique? C'est quoi le bonheur? Ça parle de tout ça, cette pièce, et c'est très très touchant, très touchant et très très drôle en même temps. J'adore cette pièce.
Est-ce qu'elle est extension de la promo pour toucher un nouveau public?
Je le dis, Daniel, parce que c'est rare. Ouais. Souvent au théâtre privé, notamment, c'est des pièces. Allez, on va dire pour des gens, allez, comme moi, voilà, des quinquas, etc.
C'est une tranche d'âge.
et là, on peut enfin emmener ces ados.
Et
ces...
moi, je voulais saluer le Marc Fayet qui joue à vos côtés, qui est comme vous d'une justesse incroyable. Et je rajouterais en plus, c'est son personnage, mais la manière dont il interprète, il a une sensibilité, une fragilité, une émotion qui est palpable. Et ce que j'adore faire quand on va dans une salle de théâtre, c'est la chance. C'est la chance d'ailleurs par rapport à une fiction ou par rapport à un film, c'est qu'on est le réalisateur de la pièce, c'est-à-dire qu'on regarde qui on a envie de regarder. C'est pas parce que quelqu'un est à court en train de déclamer son monologue qu'il faut être forcément concentré sur celui qui est en train de parler. On peut aussi regarder celui qui subit et celui qui reçoit le texte et la manière dont il le joue. Et Marc Fayet a peut-être pas 20 000 lignes à jouer, mais les moments où il écoute, les moments où il regarde, il est bouleversant dans son interprétation de justesse. Et je ne connaissais pas ce monsieur et je voulais au passage en profiter pour le saluer.
C'est quand, c'est quand il dit rien qu'il est le meilleur.
Hein, tu vois,
ce serait un tel miracle.
Mais non, mais Daniel, très bel hommage aux comédiens. C'est ce qu'il y a de plus difficile d'écouter sans blague.
Et ça fait partie d'ailleurs des premiers cours, entre guillemets, que vous donnez, que vous distillez à Camille Aguilar dans cette pièce.
Je suis content, moi, parce qu'on m'a pas mal engagé pour écouter sur des pièces. J'avais très peu de lignes.
Ça veut dire que tu fais ça bien
derrière la caméra, en plus.
Merci pour Marc, en tout cas.
C'est au
Marc
théâtre. Fayet. Non, non, mais puis prenez-en pour votre grade tous autant
mais
que
c'est
vous
bien
êtes.
De le citer.
Vous êtes au théâtre Montparnasse à partir de ce samedi, donc j'imagine dans une espèce de tension, de pression, de répétition, d'italienne, d'allemande, de toutes ces répétitions. On va parler aussi du travail qu'implique ce métier autour de Times Square. On est ravis de vous accueillir. Mmh. Guillaume, c'est pas la première fois. Camille, c'est la première fois. Vous allez
comprendre. Et c'est la première fois qu'elle vient à la maison de la radio.
Oh.
Mais
non. Si. Oui. On m'a dit c'est incroyable, je suis arrivée et c'était un bâtiment quoi. Et puis en fait après tu.
Non, restez un peu. Vous verrez, c'est incroyable.
Bien sûr, bien sûr.
Nous, on est ravis de vous accueillir, c'est pas le cas de tout le monde. Voici Morgane Cadignan. Et Morgane ne vous aime pas.
Non, mais Guillaume de Tonquédec, je vous aime pas, mais c'est la troisième fois que je vous le dis, quoi. Du coup, je vais concentrer un peu ma haine sur Camille Aguilar. Surtout qu'elle est plus jeune que moi. C'est bon, je suis officiellement une vieille conne. Hein. Tous ceux qui sont sous la barre d'une naissance en 90, je vous déteste. Alors, Camille, entre deux représentations, ça scroll TikTok. J'ai décidé d'être une énorme boumeuse. Naissance en 95, mais comment osez-vous, quoi? C'est quoi le projet après Angèle hier, en fait? C'est qu'on se bute? Moi, j'ai l'impression d'être Jeanne Calment, quoi. Il y a des... Arrêtez de nous présenter des gens qui sont nés après le premier Jurassic Park, quoi, non? 2013, vous intégrez l'école des artistes. 2014, premier rôle dans Falco sur TF1. 2016, premier rôle au cinéma. 2020, vous donnez la réplique à Gérard Lanvin. Enfin, vous cherchez à vous faire flasher pour excès de vitesse ou ça se passe comment? Vous savez qu'il y a une loi, hein, quand on est jeune comédien, vous êtes censé galérer pendant 10 ans. Voilà. Sinon, quand vous ferez rendez-vous en terre inconnue, vous n'arriverez pas à chialer assez parce que les indigènes mexicains, ça vous ramènera pas assez à vos années de serveuse à l'Indiana Café. Donc vraiment, faites attention, quoi. Après, j'ai quand même envie d'être une boumeuse, mais très très sympa. Celle avec la voix de quelqu'un qui allumait ses gitanes sans filtre directement sur le moteur d'une fusée. Le genre de vieille, mais très cool avec les jeunes, parce que mais regardez comme elle est belle, puis elle a du talent. Oh, tu vas avoir une superbe carrière, ma colombe. Et en général, suivie d'une anecdote sur des soirées de folie au Don Camillo avec Jean-Pierre Marielle. Je serais tellement ce genre de daronne qui se croit cool, mais non. Mes enfants, ils demanderont à aller vivre chez leur père, parce que ça sera gênant, une maman qui parle à tes potes en disant « Eh les petits, venez voir. Et vous savez que j'ai connu Nagui, moi. Oh, on en a fait des belles chouilles, hein, des soupières remplies de cocaïne. À France 2, on l'appelait Marmiton. Bon, je suis obligée de réécrire l'histoire. Parce que si je dis qu'on travaillait beaucoup et qu'on avait le même gel à la lavande contre le Covid, ça écrit pas des légendes. Non. Camille, mon petit, vous êtes à l'affiche de Times Square avec Guillaume de Tonquédec, que j'ai croisé, mais bien trop... Oh, eh, Tonquet, c'était quelque chose. Hein. Sur les tournages, il exigeait des balistos LSD, sinon c'est simple, il jouait pas. À la base, la série, elle s'appelait Fume pas ci, sniff pas ça, donc c'est pour bien. Times Square, donc mis en scène par José Paul, que vous retrouvez pour la deuxième fois, Guillaume. Et cette fois-ci, on part à New York. Un huis clos porté par quatre persos. Un huis clos dans un loft à Manhattan. Moi, je veux bien. T'imagines, t'es là, tu regardes la pièce. C'est bien écrit, c'est bien joué. T'as l'impression d'être à New York. Tu sors et bam, t'es à Montparnasse. Quoi. Ah, la violence. J'ai déjà parlé de mon blocage dans une autre chronique sur le quartier Montparnasse, mais vraiment, je peux pas. J'y suis retournée pour un rendez-vous médical il y a pas longtemps. Le médecin m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, ah bah non, moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Gars, vous exercez rue de Rennes et c'est moi qui ai besoin d'un psy, je crois pas. Bref, s'il y a une bonne raison d'aller dans cet endroit de déperdition et de crêperie, c'est bien d'aller voir la pièce Times Square. Un aller-retour à New York au prix d'un billet de théâtre, ça fait du bien à la planète et à votre soirée.
Merci.
Merci Louloute.
C'est vrai que c'est l'adresse des crêperies.
Il y en a partout.
Mais t'es... Ah ouais.
Et pardon Morgane que dit non, je l'ai pas dit, mais tu es demain à Bazancourt sur scène.
Tout à fait.
Ouais, et ça, il faut le vouloir aussi.
Où ça?
C'est à côté de Reims.
Et tu te fous de la rue de Rennes. Vas-y. Donc Times Square, la mise en abîme autour de cette pièce de théâtre et de cet humour un peu, allez, évidemment violent, mais ce qui est formidable, c'est que derrière les vannes et la manière dont ce prof se comporte, on sent qu'il va y avoir une histoire et un attachement qui va naître et une forme de respect.
Oui, en fait, il la teste, il passe son temps à la tester pour voir ce qu'elle a dans le ventre, et elle répond. Mmh. Et donc, elle a...
Dès le début, parce que, pardon, dans les premières minutes, va-t-il accepter ou pas d'être son prof, il l'attaque, il envoie des vannes odieuses, et à la fin, il fait... Venez demain et puis soyez. C'est quoi? C'est soyez en retard. Surtout, j'aurai une raison de vous virer.
Tâchez d'être en retard, ça me donnera l'occasion de vous virer. Pour le vrai.
Et elle répond quand même merci. Tu vois.
Ouais. Mais c'est qu'elle lui fait une réponse qui la touche. C'est-à-dire qu'à un moment, il entend dans son discours quelque chose. Elle veut s'élargir, sentir que quand elle joue, en fait, elle devient quelqu'un d'autre et qu'elle existe pleinement. En fait, c'est ça qui la touche finalement.
Oui, elle finit par dire mais qu'est-ce que quand vous êtes sur scène, ça vous fait quoi? Et elle répond.
De la place, ça me fait de la place.
La place à l'intérieur de moi. Et je sais pas comment le dire mieux, ça me fait de la place. Et lui, ça le touche beaucoup parce que il y a quelque chose de juste dans ce qu'elle dit. Et puis, il se revoit lui-même comédien débutant. Donc, il a envie de transmettre.
Camille, est-ce que vous avez entendu dans les lignes, dans les répliques de cette pièce, des conseils qu'on vous donnait justement dans les cours de théâtre?
Oui. Dernièrement, je continue à en prendre. On est beaucoup de comédiens ensemble en train de travailler et on a ce référent et on le dit le coach et tout ce qu'il dit et même la manière dont il est très rigoureux, il est dur d'une certaine manière, il est dur.
Comme Guillaume de Tonquédec dans la pièce.
Complètement.
D'accord.
Et c'est marrant parce que je l'ai travaillé et il m'a dit tu peux reprendre des choses qu'on vit ici, je dis oui complètement. Mmh. Et et en même temps je trouve ça juste parce que ça te fout une pression mais au moins t'es là. Ça te fait, on n'est pas en train de dire oh, à quel point t'es formidable, c'est super, mais du coup on évolue moins parce que
on apprend à se battre.
Comment?
On apprend à se battre plus.
Et on vous pousse, et on vous met dans des endroits où c'est inconfort et c'est pas plus mal. Après lui il est odieux, donc il y a un niveau au-dessus quand même parfois.
Alors lui vous parlez de Guillaume Tonquédec ou de votre coach?
Là Guillaume dans la pièce. Mais mon coach il est pas odieux.
Qu'est-ce qu'il y a de pire à entendre en fait quand on est sur scène, on est en train de s'essayer, on est face au regard du prof, du coach. Je sais pas qu'est-ce qui a été le plus douloureux pour vous d'entendre? En jugement.
Des vérités de tu sais, si tu travailles pas plus il va rien se passer ou mais à ta place ça marchera pas, des endroits où on vous met pas, on n'est pas en train de vous conforter, on est en train de juste faire tiens c'est chouette de vouloir ça. Regarde. Mais il va falloir y aller maintenant.
Ce qui est paradoxal c'est que c'est un métier quand même, Guillaume Tonquédec, que l'on fait aussi où il faut avoir confiance, il faut être mis en confiance, il faut qu'il y ait un lâcher prise et de mettre comme ça cette espèce de tension à de jeunes élèves, c'est étrange parce qu'on a plutôt l'impression qu'il faudrait les mettre en confiance pour qu'ils étendent.
Moi, ceux avec qui j'ai le plus appris, c'est ceux qui me mettaient en confiance justement, même s'ils me mettaient en danger. C'est-à-dire que Michel Bouquet, pour reparler de lui, dont je m'inspire un peu secrètement d'ailleurs pour jouer le personnage, il disait « si vous avez une seconde de doute sur votre vocation, faites autre chose, c'est trop difficile ». Et il avait raison. Et il dit par contre, il ne faut pas douter de votre vocation, par contre il faut douter dans votre travail. Et lui, tous les jours, refaisait l'entièreté du texte de la pièce, repassait dans sa tête la représentation de la veille pour essayer d'être meilleur encore le soir. Et c'est pas pour rien que c'était un immense acteur de théâtre. Il dit, il faut douter, mais il faut pas douter de sa vocation. Les choses qui sont en fait qui vous font perdre pied, parce que moi ça m'est arrivé d'avoir des choses très violentes où ça peut être sur votre physique, sur votre voix, sur je sais pas quoi, votre manière de vous tenir en scène.
On te l'a déjà fait à toi, tu
vois. Ouais, des trucs vraiment
tous les soirs. Qui nous a raconté à ce micro.
Ouais, absolument, il y a quelques années, où tu peux te dire je vais faire autre chose, c'est trop dur. Alors si tu restes, c'est que vraiment t'as envie. Et puis après, tu tombes heureusement sur des gens qui vont t'apprendre des choses et qui vont te faire évoluer, quoi.
Est-ce que quelque part aussi, certains profs dans des cours de théâtre ou certains coachs dans des stages pensent que il faut finalement être dur, être violent
Oui, il y en a beaucoup. Et moi, ce que je crois, c'est que l'acteur, quand il joue, il fait ce qu'on appelle sa cuisine. Donc, s'il a une scène d'émotion ou d'amour à jouer, peut-être qu'il va se servir d'un souvenir à lui. Ouais. Mais surtout, conseil aux jeunes comédiens et aux autres, aux vieux, ne confiez pas ce secret. Ce secret ne regarde que vous. Soyez bouleversant en scène, mais n'allez pas dire à votre coach ou à votre prof de quoi il s'agit pour pas qu'il vous le resserve devant tout le monde, comme ça m'est arrivé. On m'a dit, mais si, souviens-toi, tu m'avais raconté ce truc devant toute une équipe, ça c'est terrible.
Enfin,
on entre dans l'intimité
de
quelqu'un.
Pierre Arditi m'a dit que pour aller chercher une émotion ou pour jouer, il avait tué 1000 fois sa mère. Ce qui est une phrase évidemment qui englobe tous les malheurs possibles et imaginables. Mais qu'est-ce qu'il y a, Morgane?
Toi
aussi, tu veux tuer ta mère? Je trouvais que la phrase était d'une violence inouïe, et finalement, on comprend aussi que lorsqu'il faut jouer quelque chose, il faut aller chercher en soi, sans forcément révéler en effet.
C'était de la fiction, tandis que j'imagine que là, parle quelque chose de très intime, de vrai, qu'on ne peut pas lui confier.
Oui, c'est ça. Il faut garder son jardin secret. Celui qui est apprenti acteur, il doit avoir un instinct et se dire là, t'as pas le droit d'aller sur ce terrain-là en face. Il faut pas tomber sur un gourou. C'est la différence entre un maître et un gourou. Fuyez les gourous, je vous en supplie.
Morgane, c'est un peu ce que j'allais dire. Il faut aussi quand même dire que ça peut aussi parfois passer par la bienveillance et la douceur.
Bien sûr.
J'ai connu plein de jeunes acteurs quand souffraient un peu, qui se faisaient hurler dessus et qui étaient un peu dans cette légende, mais du prof qui te dit mais si je te défonce, c'est parce que je crois
en toi.
Ça peut se passer très tranquillement parfois.
Puis il y a même des profs qui sont à la limite ou qui dépassent la limite du harcèlement, voire de la domination psychologique.
C'est pas obligé d'être whiplash.
C'est clair.
Ou qui peuvent aussi abuser de jeunes filles qui viennent dans des cours.
Bien sûr, ça c'est pas possible, il faut partir.
Et d'avoir l'autorité, c'est ça. Non,
moi je dis toujours aux autres, quand on demande un conseil sur un cours, je dis vas-y, assiste, et si tu te sens pas bien, pars. Il faut surtout pas rester.
Si le coach est nul,
c'est trop intime. Non, il faut pas que le coach devienne un gourou. Voilà, c'est la différence.
Par contre,
il faut douter, se méfier
de l'emprise. Et pourtant, là il n'y a pas d'emprise, mais il y a un bras de fer qui s'installe dans la pièce, dans Times Square.
Bien sûr.
Et ce bras de fer est psychologique et humoristique, évidemment. Et il y a une part de sensibilité que l'on finit par déceler des deux côtés, d'ailleurs, parce que c'est pas uniquement un personnage qui va évoluer. Les quatre finalement évoluent, que ce soit le frère, que ce soit le jeune garçon qui rêve de
Axel Orient il est sur Times Square et il joue les petits personnages de Disney avec sa tête pour essayer de faire la manche et gagner un peu de sous. Il revient d'Afghanistan, il a sauté sur une mine, il a perdu ses copains, donc il a un bégaiement du coup qui lui est arrivé parce que ça lui est monté évidemment à la gorge. Et en fait, ces quatre personnages blessés par la vie qui vont se tendre la main pour se la rendre un peu meilleure, cette vie-là. C'est vraiment sur la générosité et la solidarité.
Oui, mais c'est peut-être l'une des répliques les plus violentes que votre personnage dit, justement, sur ce vécu, en disant j'ai plus la phrase en tête, mais Glomono, il a quoi à l'autre, là? Il y a encore une bombe qui a sauté, il y a encore des éclats d'obus dans sa tête, et ainsi de suite. C'est d'une violence inouïe, et la réponse se fait sans bégaiement, et c'est ça qui est bouleversant, c'est que d'un coup, quand il est concentré, quand il sort quelque chose d'instinct, là, ça bégaye plus.
Bah, Axel, il est magnifique aussi, franchement.
Vous êtes heureux.
Très heureux.
C'est cool.
C'est d'une banalité. Je rends hommage à José Paul et à la façon dont il nous a tous choisis. Il voulait un équilibre, il voulait qu'il y ait une vérité.
Et ça fonctionne.
Et il y a un mix de générations, et ça, c'est chouette.
Ouais.
Il fallait
qu'elle soit très jeune, Camille et Axel aussi, parce qu'il faut qu'ils puissent jouer les personnages de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ils ont 15, 16, peut-être 18, c'est la première fois qu'ils tombent amoureux.
Je crois que dans la pièce, ils ont 14, ouais, c'est ça, ils sont
très
jeunes
dans la pièce. C'est ça. Ouais. Donc c'est la naissance du sentiment amoureux.
Mais c'est pas écrit en cliché par rapport à notre génération, je veux dire, c'est pas, parfois, je trouve qu'il y a un peu un manque de considération, je sais, oui, je le dis. Et il y a des clichés sur comment on doit être quand on est ado. Et du coup, on sait pas comment on est, ça parle mal, c'est ronchon. Alors en fait, non, t'as des envies, t'as peur, tu je sais pas, t'as des questionnements un peu comme vous d'ailleurs, hein, juste qu'on n'a pas le même âge.
Il y a une écriture,
Ouais, mais tu démarres dans la vie, elle parle de ça, la pièce. C'est un très bel hommage à tout ça. Moi, j'aime beaucoup, j'adore cette pièce.
Il y a un clin d'œil qui est fait à la manière dont certains ados parlent, c'est en répétant plusieurs fois dans une même phrase le même mot, comme un tic de langage.
C'est vrai.
Il y a aussi du coup, le du coup vient très souvent.
C'est vrai.
En mode.
Ça s'appelle Times Square, c'est drôle, c'est une mise en abîme sur le monde du théâtre, mais au-delà de ça, même si ce monde du théâtre ne vous attire pas en particulier, c'est-à-dire si vous n'avez pas envie d'assister à un cours magistral, c'est aussi toute une histoire de, j'ai envie de dire, à la fois de transmission entre deux générations, mais aussi une histoire d'amour fraternel, je n'en dirai pas plus, dans cette pièce Times Square qui est drôle et qui se joue au Théâtre du Montparnasse à partir de samedi soir. Voici Florence Mendez.
Salut tout le monde, me voici de retour comme chaque semaine à Paris. Alors souvent les gens me demandent comment je fais pour le logement. Eh ben quand je suis à Paris, je prends un hôtel ou un amant. L'un me coûte moins cher que l'autre, c'est l'hôtel. Moquez-vous, je m'en fous, un jour je serai riche. Enfin remarque, riche en bossant pour France Inter, j'ai le temps, je crois que d'ici là, Paul Mirabel aura mué. Ok, je serai peut-être pas riche, mais en tout cas je serai célèbre. Dites-vous que quand on parlera de ma gloire, quelqu'un dira quoi à l'animateur et puis on changera de sujet.
Waouh, ma gloire.
Bref, le gouvernement a lancé lundi une campagne de sensibilisation sur le syndrome du bébé secoué et mon ton est beaucoup trop joyeux pour aborder ce sujet grave. On ne le répétera jamais assez, secouer un bébé peut avoir des conséquences dramatiques sur sa santé, hein, quand ça ne tue pas. Ça peut entraîner de graves séquelles, hémiplégie, retard mental, création de Debout la France. La maltraitance, c'est un truc qui m'échappe complètement. Pourquoi violenter son enfant quand on peut le faire chier? Il y a des trucs tellement plus mesquins, mais tellement plus marrants que la violence physique. Ton bébé se réveille une fois par heure la nuit. Eh ben, pour te venger, dessine-lui une bite sur le front pendant qu'il dort. Voilà. Il fait le difficile pour manger. Laisse ton grand-père atteint de Parkinson lui donner sa compote à la cuillère. Oui, parce que sachez ça, il est jamais trop tôt pour apprendre que dans les yeux, ça pique. Il exige constamment ton attention. Joue avec lui à « Il est où le bébé ?» mais fais semblant de paniquer parce que tu le trouves pas alors qu'il est juste devant toi. « Il est où le bébé ?» J'ai raté mon truc. Voilà. Et j'ai lâché ma feuille au moment où tout raté. Et tu peux continuer une fois quand ton enfant est un peu plus grand, quand il perd une dent, glisse une souris morte sous son oreiller et le matin crie « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» S'il a peur des monstres sous son lit, dis-lui « T'inquiète, ils sont là que le jeudi, alors qu'on est jeudi. » S'il veut pas dormir, raconte-lui une histoire, mais juste en bougeant les lèvres pour lui faire croire qu'il est devenu sourd. Oui, oui, en tant que maman, je réclame le droit de me venger, ne fût-ce que pour la grossesse, le gamin, il a fait à mon corps ce que l'Allemagne a fait à la Pologne. 22 kilos, putain, il m'a fait prendre. Je te raconte pas l'état de mes seins. Je faisais du 110E. Le diamètre de mes tétons, c'était deux fois la distance Terre-Lune. Quand j'arrivais à un rendez-vous, mes nichons, ils étaient là 5 minutes avant moi. Non, franchement, les bébés, c'est des relous. Déjà, ils parlent pas. Et le père, à chaque fois que le gamin, il chiale, il te regarde et il te demande qu'est-ce qu'il a. Mais genre, j'ai un traducteur de bébé, moi. Ouin. Ah, ben oui, c'est ça. Il dit qu'il t'emmerde. C'est encore pire. Une fois qu'ils se mettent à parler, ils disent des trucs genre « Maman, papa, il est parti parce que c'est pas bon ce que tu fais à manger. » Et là, t'essayes de te rappeler pourquoi tu t'es battue pour avoir sa garde. Mm-hmm. Oui, c'est ça, pour faire chier son père. Voilà, je me rappelle maintenant. Ah bah. Mais avant ça, il faut passer l'étape des 2 ans, le terrible 2, la crise d'adolescence du bébé. Le mien, il m'avait fait ça en rue. D'un coup, paf, il s'est roulé par terre, il refuse d'avancer. Mais j'ai fait ce que toute bonne mère aurait fait. J'ai chuté dedans. Non, j'ai pas chuté dedans, évidemment. Il y a un flic qui l'a vu se traîner par terre et qui m'a dit « Madame, qu'est-ce qu'il a cet enfant ? Il a 2 ans, voilà ce qu'il a. » Et si tu veux pas qu'il devienne trop con, ton enfant, en plus, c'est pas tout. Non, tu dois l'emmener au musée, tu vois, genre le musée des sciences naturelles. Ouais. Mon gamin, il adorait ça. Et il croyait que j'avais la science infuse. À chaque fois, devant une vitrine, hein, il s'arrêtait, il faisait « Maman, c'est quoi ça ?» Et t'as trop d'ego pour reconnaître que t'en sais rien. Alors t'es là, ben ça, c'est une antilope ou un zèbre. Enfin, voilà, c'est comme pour papa. Il y a plusieurs possibilités. Tout ça pour te farcir un ado, hein, qui finira par te dire des trucs du genre « T'as toujours préféré le chien, alors que c'est évident que je les aime autant l'un que l'autre. »
Merci. Laurence, on te retrouve ce soir et tous les jeudis au Métropole à Paris. Le 25 mars, tu seras à Bordeaux et le 2 avril à Lille.
Tout à fait.
On parlait dans Times Square de l'importance de l'écoute pour une actrice ou un acteur, mais pendant.
Pour les marrants,
que
les parents aussi.
Ouais, pour les marrants aussi, c'est ça, un joli lapsus. Pendant que Camille écoutait Florence, au moment où tu parlais de la taille des seins pendant la grossesse, elle s'est recroquevillée sur sa propre poitrine avec le « aïe, ça doit quand même faire mal ».
Vraiment, ça doit être chouette d'être parent, mais c'est pour les autres.
Non, c'est pas...
Ouais, non, je sais pas.
Tu, vous
me dis.
Vous parlerez de vos tétons hors antenne, s'il vous plaît, c'est gentil.
Oh non, c'est pas
Je voulais savoir, Guillaume de Tonquédec, à propos de cette transmission. Tout à l'heure, vous évoquiez d'ailleurs les affres de ce métier. On peut avoir l'impression que, avec votre carrière, votre notoriété, la reconnaissance au cinéma, au théâtre ou à la télévision, évidemment, vous n'avez plus aucun doute, puisque vous êtes établi, installé, reconnu, bankable.
Il le dit, le personnage, c'est la confiance, c'est la mort du comédien, c'est le début de la fabrication en chaîne, c'est tellement juste. Je vais vous dire un truc, j'ai eu mon César un 23 février pour le second rôle dans Le Prénom. Je tournais le lundi, je me suis dit, bah, c'est bon, je suis arrivé, j'ai un peu... toute l'équipe m'applaudit, en plus j'arrive, c'était notre premier jour de tournage, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, là je vais... Bon, bah, tout va bien, quoi. Je me suis ramassé à cette première scène, mais comme un gros con, comme un super nul. Le petit peu de confiance, de surconfiance, de trop de confiance que j'avais peut-être acquis, j'ai tout de suite mis à la poubelle. Il faut tout de suite recommencer sur le métier, remettre l'ouvrage. C'était une super belle leçon. Je me dis, mon ego, je vais le mettre au placard, ça ne sert à rien.
Il faut en tout cas trouver l'équilibre entre la suffisance en disant, de toute façon, c'est simple, c'est moi, ça va être facile, et la confiance, parce qu'il faut quand même avoir confiance pour y aller.
Mais alors, la confiance, c'est autre chose. Là, c'était
la suffisance, un peu.
Oui, la suffisance.
Non, mais ça sert à incarner, ça sera votre souvenir si vous devez incarner un personnage hyper suffisant.
Ça vous a créé un souvenir,
c'est parfait.
Justement, Camille, est-ce que vous servez, comme le dit Leïla, de ce que vous observez dans la vie pour vampiriser, retenir, mais je sais pas, en faisant vos courses et en voyant le comportement de quelqu'un, la réaction d'une dame, le bégaiement d'un client, en vous disant, je chope comme ça.
Oui, mais parfois même comment il marche, mais j'essaie de faire un truc à côté deux. Après, j'ai peur qu'ils me regardent. Donc, du coup, je fais toujours un peu en mode, attends, c'est marrant quand même.
Il faut pas l'inviter au Téléthon, hein, vraiment.
Non, t'imagines le truc de merde. On va tous essayer. Non, l'enfer. Mais j'essaie d'être discrète, mais si plein de fois, parce que je trouve ça trop intéressant de voir comment les autres y fonctionnent. Je me dis, ah, tiens.
Ça vous nourrit.
Bah oui, parce que si demain je dois jouer quelqu'un qui se tient comme toi, bah je sais pas comment tu te tiens. Enfin, il y a plein de petits détails.
Je prends très bien.
Non, mais t'as l'air d'avoir mal au dos, du coup je me pose la question, comment ça se passe.
Ouais, c'est ça.
Mais vous l'avez pas vu marcher.
Justement, c'est bien pour ça, tout à l'heure je l'ai vu. Et tu te sers d'un peu de tout ce qu'il y a, quoi. Je plaisante. Voilà. Non, mais je me sers un peu de tout ce qu'il y a.
Et c'était la dernière, fois qu'elle venait à la maison de la radio.
C'était deux fois en une.
Beaucoup plus souvent.
Sa chronique la semaine prochaine.
On va continuer de parler de Times Square, mais que avec Guillaume de Tonquédec. Voilà. C'est au théâtre Montparnasse à partir de samedi. Et on va plonger dans la bande originale de vos carrières. On va recevoir d'ailleurs un ancien prof du cours Florent, François Clavier, qui sera notre invité. Mais d'abord, voici en musique ce que vous écoutiez, Camille Aguilar. C'était en 2013.
Je sais pas comment elle s'appelle.
Desiree.
J'ai gagné un point, vous gagnez
80. En 2013, Camille, vous avez un bac littéraire en poche, un bac qui a beaucoup de valeur, sachez-le, je le dis au cas où on n'aurait pas bien entendu cette information dans l'actualité.
Le bac S, le bac meilleur.
Le bac L, donc. Vous testez rapidement la fac, mais vous considérez très rapidement que ce n'est pas pour vous non plus.
Voilà, exactement. Il fallait que j'y aille. Ma sœur, elle a fait Sciences Po. Il y avait un endroit où elle me disait, Camille, quand même, soit à la fac, on ne sait jamais. Ouais. Puis après, j'ai fait, bah, on saura si je le fais. Du coup, j'ai arrêté.
Ouais. Et les parents?
Mes parents, c'est des immigrés espagnols, donc ma mère, ils n'ont pas de diplôme, et ma mère, elle avait un peu peur, elle me disait, Camilla, tu es sûre que tu veux, quand même, si tu as les diplômes, c'est un peu mieux, ma chérie. J'étais là, tu sais, maman, ne t'inquiète pas, ça va le faire. Et elle m'a dit, d'accord. Et après, ils m'ont suivi.
Elle a été détendue.
Au début, elle a eu un peu peur, après, c'était bon.
Et comment vous avez trouvé votre école? Tout à l'heure, Guillaume l'a dit, hein, c'est pas simple, si le premier cours ne vous convient pas, il faut partir, il faut changer. J'ai l'impression que c'est comme trouver son psy, en fait. Il faut trouver vraiment le bon interlocuteur, sinon il faut passer son chemin.
Total. Tu fais plein d'auditions et puis tu te dis, mon Dieu, t'arrives, il y a des profs, tu te dis, ça va pas le faire du tout, il va être trop violent, il est un peu chelou, il y a un côté un peu pervers, à quel endroit tu te sens bien?
Vous en avez fait beaucoup avant de trouver la bonne?
Eh ben, en fait, j'en ai fait deux. Et là, celle dans laquelle j'étais, c'est l'entrée des artistes. Et quand je suis arrivée, ils étaient tellement bienveillants que je me suis dit, oh Dieu, ça a l'air chouette, ils sont trop gentils, ils ont l'air d'aimer ce qu'ils font, et du coup, bah, quand ils m'ont pris, je suis rentrée direct dans l'école.
Mmh. Et tout à l'heure, on disait qu'il fallait se méfier des gourous, des pervers, ça aussi, vous l'avez ressenti dans certains comportements ou regards?
Ouais, ouais, y en a, ils viennent et ça se voit dans les yeux. Il y a un truc qui est pas sincère, quoi. On se dit, il essaie d'aller trop profondément, alors que rien qu'à l'extérieur, il y a un truc bizarre. Je sais pas. Il y a déjà un truc qui va pas. Là. Tu me regardes trop bizarrement. Je me dis, c'est pas ce qui t'intéresse en fait.
Mais
de,
mettez
que
des
joue,
lunettes.
Quoi. C'est un peu.
Vous êtes trop près. Vous êtes
quoi, c'est ma fête ou quoi? Guillaume, le Tourquédec, vous écoutiez-vous en 2013?
Oh, l'excellent quiz.
Bon bah ouais.
Bon bah alors. Like a tiger, defying the laws of gravity.
Admiration time, passing by like leading a diver. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm turning at the speed of light. I wanna make a supersonic man.
Chanson qui a été élue par les Anglais comme étant la chanson qui mettait le plus de bonne humeur.
Ah bah oui. Ah bah c'est mécanique, on peut pas faire autant, on peut pas résister. Ça commence un peu comme un slow au piano,
vrai,
avec cette voix démente de Freddie Mercury. Et tout d'un coup, ça part. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai entendu, où j'ai décollé littéralement. Quand la chanson démarre, et ça me fait le même effet encore maintenant à chaque fois que je c'est mon shoot de plaisir. Quoi,
et alors pourquoi ça. L'avoir choisi en 2013? Ça correspond à quelle période d'ailleurs, Leïla?
Oui,
c'est
parler.
Le César, César 2013 justement. Ouais. Don't stop me now.
Avant le fameux lundi.
Ah, ah bah, oui, voilà, beau, exactement. Ce que tu dis, c'est
bah,
beau.
Ouais. Non, j'étais heureux, je le suis toujours d'ailleurs. Ouais, ouais, bien sûr.
Il est où ce César?
C'est honnête.
Le César, il est dans mon salon et à chaque fois, Leïla, je raconte cette histoire à chaque fois parce qu'elle ne varie pas. À chaque fois que je passe devant, je l'embrasse et je dis merci. Je n'en reviens toujours pas. Non, mais honnêtement, c'est tellement bien.
Non, mais on parlait de César.
Non, mais c'est un peu votre mezouza, quoi. C'est un peu le.
Ouais, c'est comme la mezouza. Ouais, c'est joli de comparer ça à la mezouza. C'est exactement ça. C'est une telle chance, franchement. Profitons de la vie, franchement.
Vous voyez la chance, vous voyez comme il est plein, il est heureux là, il est plein de bonnes choses. Après, je vois avec lui tous les jours, c'est du love.
Ouais. Non,
vraiment,
et
je
après,
te
on
dis,
se met des musiques
trop.
Dans les loges avant d'y aller. C'est vrai en plus. Hein.
Camille, je peux vous adopter.
Est-ce que justement vous écoutez de la musique et si oui, est-ce que c'est la même bande originale de Times Square dans les loges? C'est un peu la même musique que vous vous mettez avant de rentrer sur scène ou vous variez, chacun propose une musique à quelqu'un d'autre?
Moi, je pourrais pas vivre sans musique, donc soit c'est pour sortir d'un état, je mets une autre musique que celle que l'état dans lequel je suis, soit pour au contraire le confirmer ou l'amplifier, je peux mettre ça justement. Avant
parce que j'imagine qu'il y a des comédiens ou des comédiennes qui ont besoin de silence aussi avant de monter sur scène, non? De concentration.
Il y a des jours où j'ai besoin de silence aussi, quoi. Mais toi, t'écoutes de la musique?
Là, j'écoute, mais parfois je me calme, hein, parce que trop le feu. Après, pour rentrer sur scène, ça avec le stress et tout, c'est pas possible. Donc ça dépend des jours.
Ça va bien votre personnage d'écouter de la musique avant de sur scène?
Bien sûr, mais du coup, c'est elle. Mais moi, il faut que je sois présente pour qu'elle aille vite. Étant détendue, quand même. Alors que si moi je suis stressée et qu'elle est stressée, allez hop, ciao, bye.
Voilà, elle a tout compris au leçon.
Ça fait
un
mix des deux et
c'est
pas possible.
C'est pas deux cerveaux, c'est quatre que vous
avez.
En 2016, Camille Aguilar, vous écoutiez.
Ah bah ouais.
Mojo avec Lady.
Et on vous retrouve dans le téléfilm Elle, les filles du Plessis de Bénédicte Delmas, où vous incarnez. Une jeune adolescente qui est tombée enceinte de son violeur. Un rôle qui vous vaut la mention spéciale du meilleur espoir féminin du Festival des créations télévisuelles de Luchon. Ça doit pas être un rôle très simple à aborder.
Bah là, c'est vrai que je crois qu'à ce moment-là, j'ai compris que je jouais que pas que parce que ça m'amusait, mais que c'était plus sérieux, qu'il y avait des choses... Enfin, je pouvais défendre, en fait. Au départ, c'était vraiment... C'est fou comme on peut être auto-centré, quand même. Mais il y avait quelque chose de... Oh, ça me fait tellement... Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de jouer. Et là... En face, c'était une vraie histoire. C'était vrai en plus. Les filles du Plessis, elles ont existé. C'est quelque chose.
Ça vous donne un sentiment d'être utile, de porter des valeurs à un combat?
Totalement. Ça donne un sens parce que elles ont existé. Donc, à travers nous, toutes les filles, elles existaient encore plus deux fois. Pour dire aux gens, au fait, ça existe, mais ça existe toujours aujourd'hui dans d'autres pays. Mais...
Et comment on compose ce personnage? On parlait toujours de. Parce que finalement, les comédiens que vous êtes, vous êtes des. Des stars de l'imagination, j'ai l'impression. Vous le dites dans la pièce, faut remplir le cul des mots. Je crois que c'est une réplique de votre
personnage. Souffler dans le cul des mots.
Moi je remplis.
Alors faut souffler dans le cul.
Mais tu le remplis d'air finalement, tu vois.
Ouais. Tu le remplis. Donc comment on remplit cette partition là pour ce rôle là.
Finalement, j'ai beaucoup regardé, des documentaires sur cette période là déjà parce que dans les années 62. 363, c'était ça. J'ai bien appris ma leçon. Et ben, comment elle se comporte, comment elle parle, elle parlait si bien.
Oui.
La diction, elle parlait si bien, alors qu'elles ont 20 ans et elle parle. Donc déjà ça. Puis les femmes, comment elles avaient, qu'est-ce qu'elles avaient le droit de dire ou pas. Bon bah tout ce qui est des agressions. Ouais, c'était beaucoup discuter avec beaucoup de femmes, mais pas de mon âge. Oui. Alors les filles, c'était comment? Et même à ma grand-mère ou autre, c'était plus ça, de savoir vraiment ce qui se passait à l'intérieur. Et finalement, bah, j'ai trouvé ça vachement plus intéressant de s'intéresser aux autres, en fait. C'était vraiment chouette.
En 2016-2017, Guillaume de Tonquédec, vous écoutez Beyoncé.
Non, mais on adore la playlist de Guillaume.
Il a une playlist de...
Il est dédité avant.
Ah ouais. Il cache bien son jeu, on a l'impression qu'il est sage comme ça, qu'il est tout timide dans son coin. Pas du tout.
Pas du tout.
Beyoncé Crazy in Love. Alors, je sais pas si c'était pour le jingle de Thierry Ardisson que vous avez choisi ce morceau.
Ah, ça bah, c'est vrai que chez Ardisson, ça déménage quand il met ça avec Cher.
Fois, ouais.
La chanson a tellement de puissance qu'évidemment, on ne peut que suivre. Non, j'aime bien ça, j'adore la musique. J'adore quand ça part, vous rentrez dans l'imaginaire, justement, c'est une porte sur l'imaginaire extraordinaire, la musique.
2017, on vous retrouve dans la dernière saison de Fais pas ci, fais pas ça.
Ouais.
Vous l'avez dit, hein, il vaut mieux arrêter en plein succès, ne pas faire la saison de trop. Après, ça a donné lieu à un unitaire génial, d'ailleurs. Et puis, on vous retrouve aussi sur scène avec Claire Kane dans La Garçonnière. Ouais. Le théâtre a toujours occupé une place très importante dans votre vie. Sauf que c'est contraignant en termes d'emploi du temps, quand même, le théâtre.
C'est très contraignant, mais c'est le même metteur en scène d'ailleurs, la Garçonnière, c'est José Paul. Ouais. Vous comprenez pourquoi j'y retourne, parce qu'on a adoré, et pour être honnête, on écoutait Beyoncé en coulisses avec Claire Kem et toute la bande de dingues, on était 12 sur scène. Il y avait c'était une telle fête avec tous les soirs, franchement.
Avec un décor incroyable, des changements de pièces à plusieurs étages, enfin c'est
fou. Qui avait été capté sur France 2, notamment.
Ouais, c'est 3 700 000 téléspectateurs.
Que tu avais présenté.
C'était ouais. Énorme, ça avait
cartonné. C'est parce que Leïla avait présenté, c'est
ça. Oui, t'étais là, Leïla, bien
bonjour,
sûr. Tu avais ouvert la soirée, bien sûr.
Ouais. Mais toutes les soirées que tu ouvres.
Non, parce que c'est difficile pour nous, honnêtement, parce que c'était juste avant de jouer, juste avant le direct et tout. On nous apprend, quand on m'a proposé l'idée, j'ai dit heureusement que c'est avec elle, honnêtement, parce que.
Avec sa bienveillance.
C'est quand même compliqué de faire ça. Juste avant de jouer, honnêtement, c'était compliqué. Et c'est un souvenir extraordinaire. Donc, on écoutait cette musique en coulisses, ouais, bien sûr.
On va parler théâtre encore, puisque Times Square, c'est au théâtre Montparnasse à partir de samedi, que c'est une mise en abîme sur le monde du théâtre, sur la transmission, sur les cours de théâtre. François Clavier, vous êtes comédien, vous avez enseigné. Bonjour François, merci
bonjour.
De venir à ce micro. Vous avez enseigné au cours Florent une dizaine d'années, si je m'abuse.
Au cours Florent, non, deux fois un an, et puis j'ai enseigné à l'école du passage et puis
on m'a dit de 79 à 88, donc c'est pour ça que j'avais
oui, alors en fait j'ai commencé en 79 et puis ensuite en 88 pendant un an j'ai...
Ah pardon, ouais. D'accord, c'est pas de l'un à l'autre, c'est et en 79 et en 88, voilà. C'est ça la nuance. Puis l'école du passage en effet de Nils Haestrup et à l'université Paris-Sorbonne-Nouvelle et à partir de 2008 au conservatoire municipal du 13e arrondissement. Tout à l'heure on disait avec Camille Aguilar et Guillaume de Tonquédec qu'il fallait bien choisir ses cours de théâtre, ça peut intéresser les jeunes actrices ou acteurs qui nous écoutent, et se méfier de ceux qui confondent mentor, gourou, transmetteur et usurpateur, voire dominateur psychologique. Comment trouver le bon prof?
Ah, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions définitives. Enfin, bon, il y a les camarades qui peuvent vous dire ce qu'ils vivent avec tel ou tel professeur. Et puis,
le bouche à oreille, quoi.
Oui, le bouche à oreille, voilà. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein.
Il faut quand même de l'autorité. Est-ce qu'un prof doit être, un prof de théâtre doit être dans le conseil, la transmission, ou aussi dans l'ordre?
Je ne sais pas comment vous répondre précisément.
Un effort, écoutez.
Deux questions, deux hésitations. Troisième, on ne blâme pas.
Non, mais je crois que la relation entre une personne novice et une personne qui est en position de maître, je préfère le mot maître ou prof, ça doit être un échange entre celle qui est en position de maître, qui a d'abord pour mission d'accompagner, de rassurer la personne qui est novice, et celle qui est novice, qui, en découvrant l'art qu'il pratique, finalement permet à la personne qui est en position de maître de redécouvrir de réinterroger ce qu'il a pu acquérir comme maîtrise de son art. Donc c'est cet échange-là qui fonde finalement la transmission.
Dans la pièce, il y a une phrase, puisque encore une fois, c'est l'humour, mais il y a des pics, il y a vraiment des vannes extrêmement violentes qui sont dites entre les personnages, et l'élève dit au professeur globalement qu'il est un comédien raté, qu'il devient prof parce que il n'arrive pas à trouver du boulot. Est-ce que c'est parce que on n'a plus de travail comme comédien qu'on se dit je vais être prof, ou est-ce que certains ont le savoir transmettre et sont faits pour être prof quoi qu'il arrive?
Moi, c'est François Florent qui avait été mon premier maître, qui m'a proposé un jour d'enseigner.
Et qu'est-ce qu'il avait repéré en vous qui...
Ben, il m'a dit, j'ai toujours su que tu serais un prof.
Et quelles sont les qualités nécessaires d'un prof?
Il me semble que c'est... En fait, enseigner, hein, ça consiste simplement à faire du théâtre avec des plus novices que soi. Pas beaucoup plus, en réalité.
Donc c'est jouer, simplement.
Bah, c'est se passionner pour ce qu'est le jeu dramatique, que ce soit théâtre ou cinéma. C'est se passionner pour le jeu dramatique et au fond, ne pas cesser de l'interroger, mais là, en l'occurrence, avec des plus novices que soi. Ce qui fait la différence, c'est que les relations entre prof et élève sont très embuées par tout ce qui peut y avoir d'affectif. Je parle pas des choses de désir, hein, mais juste des relations affectives qu'il y a dans la vie, quoi.
Humaines.
Et, ouais. Et voilà, et qui ont toujours tendance à interférer un peu sur la relation de transmission. Et donc, il faut savoir gérer ça, s'amuser avec.
Est-ce qu'il y a des fondamentaux qui vont à tous les élèves, ou est-ce qu'il faut savoir s'adapter? Est-ce que deux, trois élèves entendent la même leçon, ou il y a autant de leçons qu'il y a d'élèves?
Ah oui, ça, je crois qu'il y a autant de leçons qu'il y a d'élèves. Il n'y a pas de loi,
Il n'y a pas de phrase clé comme il faut avoir deux cerveaux, un qui joue et l'autre qui écoute.
Non.
Est-ce que vous avez, vous, une phrase récurrente dans vos cours? Est-ce que vous finissez vos cours par mort au con, comme le faisait Louis Jouvet?
Non. J'ai envie de dire un mot que disait le grand metteur en scène Klaus Michael Gruber, qui était un pur génie. Et chaque fois qu'il s'adressait à une actrice ou un acteur, il commençait par dire « Pardon, je suis un con ».
C'est beau. Merci François Clavier d'être Merci. Venu à ce micro, puisque vous en parliez, tiens, à propos de con. Voici Jérémy Crédville.
Oh non! Quel vilain!
Quel vilain!
Mon fou! Mesdames et messieurs, pour la première fois à la radio, veuillez accueillir Jeff Panamesmer, le ventriloque mentaliste.
Oula!
Bonjour à tous. Je tiens à préciser que ça n'est pas la première fois que je fais de la radio, puisqu'auparavant j'étais mime interprète chez Europe 2. Aujourd'hui, pour vous, je laisse la ventriloquie de côté. Je vous prouve tout de même, avec ma main droite, que je suis bien ventriloque. Attention, c'est parti. Bonjour à toi, main. Bonjour. Voilà. Comme vous ne voyez pas à travers mon masque, personne ne peut dire si j'ai bougé les lèvres. En revanche, on peut dire que les ventriloques qui se masturbent se font sucer. Mais ça n'est pas le propos. Place au mentalisme. Je fais mes propres jingles à la bouche. Nous allons explorer ensemble votre esprit et nous allons y aller progressivement.
S'il te plaît.
Tiramisu, comme le disent les Italiens. Je vais commencer par un esprit simple, Nagui. Nagui, j'ai dans la main un jeu de cartes imaginaires que je vous lance. Voilà, vous l'attrapez. Vous allez piocher une carte imaginaire. Allez-y, regardez-la. Oui. Vous pouvez la montrer à Leïla. Je vais parler de la carte, Nagui. Montrez-moi la carte. Bien, retenez cette carte, remettez-la dans le jeu. Rendez-moi le jeu. Voilà. Hop, je mélange les cartes derrière mon dos pour ne pas les voir.
Bien sûr.
Bien. Nagui, oui. Devant tout le monde ici présent dans ce studio et pour tous nos auditeurs, pouvez-vous oui. m'annoncer à haute et intelligible voix la carte que vous aviez piochée?
Le 2 de carreau.
C'est exact. Passons maintenant à Daniel, si vous le voulez bien. Daniel, vous allez vous concentrer sur ma voix. Vous allez faire ce que vous faites au moins 7 fois pendant chaque émission. Vous allez fermer les yeux et vous endormir. Pour ce faire, nous allons vous placer dans un environnement connu. Si vous Daniel,
et saucisse.
Par souci d'efficacité, je vais compter jusqu'à 1. Et à la fin de ce compte, vous vous réveillerez et vous serez de gauche. Daniel, depuis le début du Covid, les milliardaires se sont grassement enrichis. Qu'en pensez-vous en quelques mots?
Dégueulasse.
Merci Daniel. Autre jingle. Et oui, les grandes fortunes ont en général doublé leur richesse pendant la pandémie, alors que moi j'ai eu le malheur de doubler mon nombre d'enfants. Leïla, je vais vous hypnotiser rapidement. Pour cela, je vais dérouter votre esprit en envoyant une information contradictoire à votre cerveau. Savez-vous qu'il y avait plus d'eau que d'alcool dans une bouteille de vodka? Oui. L'œil est parti en arrière, elle a le regard tordre, c'est devenu une petite lapine dans les phares, le regard tordre. Petite lapine dans les phares d'un camion. Nous pouvons pénétrer dans l'esprit de Leïla. Leïla.
Pourquoi cet accent ?
Leïla. Oui, il y a un peu d'écho dans votre tête. Leïla, ce week-end, lorsque vous présenterez le journal de 13h, vous aurez une irrépressible envie, comme vous le faites ici chaque jour après les infos de midi, de beugler les mots 13h. Petit test. Pourquoi j'écoute 7 ?
Petit set.
Ce week-end, vous présentez le journal de
13h !
Mon Dieu, plus compliqué désormais. Pour cela, je vais prendre Morgane et Florence, mais ce sera après l'émission. Sans blague, pardon. Je vais faire une petite expérience rapide, mesdemoiselles.
Moi, je suis d'accord.
Regardez-moi bien dans les yeux. Voilà. Alors, comme elles sont à deux extrémités du studio, il faut avoir un strabisme un peu divergent, mais regardez-moi. Là. Pensez à un chiffre pair situé entre 1 et 3. Gravez ce chiffre profondément dans votre esprit et à mon signal, vous allez le dire à haute et intelligible voix, le chiffre auquel vous pensez. Attention, Florence, Morgane, vous pensez au chiffre
2.
Merci. Dernier numéro de mentalisme. Je m'adresse cette fois aux auditeurs.
Oui.
On va même cibler notre audience. Pour cela, je vais demander à nos invités de donner un nom de ville, commençant par la lettre M, par exemple.
Madrid.
Voilà.
Moulin.
Marseille. Et enfin, un prénom masculin commençant par un J.
Joachim.
Jérémy.
Julien, c'est super. Florence, Morgane, pouvez-vous me répéter les chiffres que vous aviez en tête tout à l'heure?
Deux.
Marseille, allez trop loin dans mon esprit. 2-2. Si j'enlève l'espace, ça fait 22. Et en effet, chers auditeurs de Marseille ou auditeurs qui connaissent des gens dans la région de Marseille, ce samedi 22 janvier, je jouerai bien à l'espace Julien de Marseille. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire un peu de pub?
Bravo.
Bravo.
Le 22 donc à Marseille, samedi, à l'espace Julien, et le 29 janvier à Allennes-les-Orbourdins.
Tanguy Passureau, de quoi vas-tu parler dans le...
Vous vous souvenez David Bennett, je vous en parlais la semaine dernière, c'est ce monsieur qui s'est fait greffer un cœur de porc. Eh bien, on a appris depuis que c'était un salaud, alors du coup, fallait-il le sauver?
La bande originale avec les gens que vous avez dit, Morgane Galignan, Florence Mendez, Tanguy Passureau, Jérémy Crédville, Daniel vrai. Morin,
Morgane.
Et nos invités, Camille Aguilar et Guillaume Tonquédec. À propos d'invités, et je m'en excuse auprès de François Clavier qui était présent avec nous pour nous parler justement du travail de professeur dans les cours de théâtre. Il est acteur et il joue Maîtres anciens, une adaptation du livre de Thomas Bernard jusqu'au 29 janvier, du mercredi au samedi, au Déchargeur, qui est une salle parisienne. Voilà. Et pardon de ne pas l'avoir fait en temps et en heure. Et pour revenir justement aux annonces, Times Square se joue au théâtre Montparnasse avec en scène, vous quatre, donc évidemment Guillaume Tonquédec, Camille Aguilar, entouré, parce que c'est important de se dire que c'est une pièce avec quatre acteurs. Tout le monde a autant d'importance, même s'il n'y a pas le même temps de présence sur scène, mais le poids dans l'intrigue, en tout cas, est aussi important pour Axel Orion que pour Marc Fayet dans cette pièce qui, je l'ai dit, évidemment, est autour du monde du théâtre, de la transmission et du coaching, mais pourrait s'appliquer à tous les métiers possibles et imaginables dans le côté je suis jeune étudiant ou étudiante, et puis je suis un vieux routier, j'ai déjà tout vu, et puis je vais t'expliquer comment s'en sortir. Mmh. Ça peut s'appliquer à tous les métiers.
Oui, c'était une de mes craintes, c'était est-ce que c'est pas un peu trop boutique, comme on dit? Et pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est presque un prétexte, ce côté boutique, pour parler de
Je pense que dans le compagnonnage pour les charpentiers, métiers, pour tous les métiers, il doit y avoir ce genre de rapport aussi entre l'apprenti de 16 ans qui débarque et le vieux routier de 50 ans qui va lui dire bah voilà, je vais te montrer comment on fait.
Puis... Mais là, ce qui est chouette, c'est que du coup, ça se parle. Et comme on parlait tout à l'heure de dialogue, bah il y a une vraie dialectique entre les deux. C'est pas allez tiens, viens, je te raconte la vie, je sais mieux que toi. C'est un truc entre les deux et ça se partage. C'est un vrai échange, exactement. Ouais, c'est un vrai échange. Mmh. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir.
Ça fait
zizi.
Ça fait zizi.
Times Square. Et puis c'est drôle. Et alors c'est toujours un peu gênant de rire de la méchanceté. Mais comment qualifier d'ailleurs cet humour à part humour vache? Mais il y a quand même des vannes, des punchlines qui sont assez sévères. Quand même,
il est d'une mauvaise foi absolue. Mais en fait derrière, comme il est lui-même blessé et qu'elle le sent, elle, ces deux instinctifs, ces deux personnages là, ils sont ces deux animaux. Ils se sont très bien reniflés. Carrément, c'est ça.
Non, c'est-à-dire qu'elle avait, elle avait une image Camille, mais on va l'oublier.
Je parlais de Lionel Nakache tout à l'heure qui parlait du cerveau. Il me dit on a oublié, mais en une fraction de seconde, quand tu rencontres quelqu'un, il se passe, il y a un échange d'informations où on sait à qui on a affaire. Comme deux animaux qui se rencontrent.
Ouais, enfin, sauf qu'il y a des fois où on se fait avoir aussi.
Oui, on peut se faire avoir, bien sûr. Non, parce que nous, on a l'intelligence ou la politesse, ou on masque les apparences, justement. Mais là, ces deux-là, ils se sont rencontrés en quelques secondes et ils savent très bien qui est et qui est l'autre. Et c'est pour ça que le dialogue va pouvoir avoir lieu.
J'ai envie de dire, c'est comme quand on a fait la première fois, quand on a fait l'audition et que
l'audition
je suis venue et je t'ai regardé, j'ai fait c'est drôle, je me sens bien. Non mais c'est vrai, je me sentais bien avec toi. C'est important.
Les deux personnages sont cabossés aussi. Oui, oui. L'une est serveuse et on c'est une sorte de cliché. C'est le job en attendant de trouver
surtout aux États-Unis, c'est une réalité aux États-Unis.
Bah, Paris, il y a deux trois restaurants
aussi, mais ils n'ont pas le système extraordinaire qu'on a en France de l'intermittence.
Ils sont tous les deux cabossés par la vie. Elle, l'envie de réussir, mais qui sont l'opportunité de trouver le rôle dans l'attente de passer une audition sans savoir si elle sera prise ou pas.
Et lui, de quitter son milieu familial.
Bah, c'est ça. En fait, il y a un endroit social aussi. J'y pensais tout à l'heure. Je me disais quand même, des deux, elle n'a pas grandi. Je viens de banlieue. Donc, si on fait ici, c'est pareil. Je viendrai de banlieue. Genre, je viens de banlieue. Il n'y a pas cet endroit où, dans ma famille, on va m'amener au théâtre, etc. Et ce qui est chouette, c'est que d'elle-même, comme il y en a plein d'autres, d'elle-même, elle a envie. Donc, d'elle-même, elle a quand même fait. Elle connaît quand même Tchekhov. Hein. elle sait des choses, peu par rapport à lui, parce qu'il y a plus d'expérience, mais elle sait quand même, et elle a quand même envie.
Un peu comme vous qui êtes ostéopathe et qui savez que j'ai besoin de me tenir droit.
Exact, je vous ai vu direct, je l'ai vu dans la télé, ça devrait être comment vous tenez tout ça.
Direct.
Mais il y a cette envie de sortir de tout ça, de continuer sa vie, de se dire oh, j'ai une chance quand même.
Et lui qui a bossé aussi par la vie, par le métier, avec des moments de reconnaissance, de gloire, notamment son Roméo et Juliette qui avait été justement un énorme succès pour lui. Et c'est pour ça aussi que d'un coup se dire soit je retourne vers mon gros succès en étant dans la transmission, soit au contraire, c'est rideau, je ne veux pas me souvenir, remuer le couteau dans la plaie et me souvenir que j'ai été et que je ne suis plus aujourd'hui, cabossé par la vie aussi, parce qu'il refuse des rôles qu'il estime pas à sa hauteur.
Oui, je crois qu'il a eu la chance de jouer Roméo et Juliette et que ça a été un triomphe. Et puis après, peut-être parce qu'il avait tout simplement besoin de manger ou peut-être parce qu'il a manqué de discernement, il a fait de mauvais choix et il est entré dans cette zone qui s'appelle l'aigreur et où tout d'un coup, il s'est mis à boire alors qu'il n'est pas alcoolique au départ. C'est juste qu'il est malheureux. Il s'est mis à boire et puis un jour, il a tellement bu que il va se relever alors qu'il est censé être mort. Il va aller embrasser un de ses partenaires sur la bouche. C'est quand même très gênant. Donc on baisse le rideau et lui ne s'en souvient pas le lendemain.
Et son frère qui est celui qui n'est pas l'artiste de la famille, qui son épouse a un piano, lui n'est pas vraiment musicien, n'est pas comédien, mais il est en totale admiration et en total amour fraternel pour son frère. Il le voit comme ça se perdre dans l'alcool, passer à côté de son métier ou de sa carrière, et c'est cet amour fraternel aussi que l'on lit et que l'on sent et qui s'applique dans tous les métiers possibles imaginables de la terre. Donc en effet, Times Square, c'est autour du monde du théâtre, mais ce n'est pas une niche et c'est pas
c'est hyper plaisant à voir, on s'amuse vraiment. Et puis je vous trouve tous les deux, je trouve que c'est un très beau duo. On vous a déjà vu dans plein de films, Camille, sans jamais vous recevoir pour l'occasion, et en fait de vous voir sur scène comme ça, vous êtes une force, c'est une force qui va, Camille, en fait. C'est quelque chose de très très séduisant déjà de vous rencontrer là à ce micro et de vous voir sur scène aussi. Vous avez une voix, vous avez un timbre de voix exceptionnel, il y a quelque chose qui est
Exceptionnel, voilà. Non, elle a une voix bizarre quand même.
Non, elle a une très belle voix.
Vous l'adorez, vous l'adorez.
chanter.
Voilà, elle a une très très belle voix. Non, il y a un truc très, voilà, très, très, très plaisant à vous voir tous les deux sur scène. On connaît bien sûr Guillaume depuis plus longtemps, voilà pourquoi je parle davantage de
lui. Et on l'aime, ce qui n'est pas le cas
c'est
de.
C'est très gentil, ça me touche beaucoup.
On aime Guillaume, ce qui n'est pas le cas de gens comme François Berléand. Ou, voilà,
ça faisait longtemps. Il est toujours comédien.
Il est. Je sais pas,
L'a-t-il été
Non, mais c'est pour ça. Merci, merci en tout cas, Nagui et Leïla, de recevoir Camille. Je trouve que c'est très très important parce que moi-même, quand j'étais comédien débutant, combien de fois j'aurais aimé faire ces émissions qu'on ne m'a jamais proposées parce qu'on vous dit, mais non, t'es pas connu, donc ça sert à rien. Et où on voit l'acteur ou l'actrice principale, et on a l'impression qu'il joue un monologue alors qu'on est 15 en scène. Et je trouve que c'est hyper important, justement, la transmission. J'ai insisté pour qu'elle soit là aujourd'hui et merci de l'avoir.
Merci d'avoir proposé. Et
c'est important. Il y a beaucoup de gens qui galèrent, qui savent que c'est que de galérer. Et c'est important quand on peut aider un peu ceux qui arrivent de le faire.
Il y a beaucoup de gens qui galèrent. Il vous a regardé, Morgan, et il nous a regardé toutes les deux. Il a fait Morgan. Oui, on galère.
Et donc, c'est l'occasion aussi de rappeler que c'est une troupe, le théâtre, avec Marc Fayet et Axel Orion. Et nous, dans notre troupe, il y a Tanguy Passion.
Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi. Oula. Oui, je ne suis pas qu'une enveloppe corporelle qu'on a grande envie de timbrer. J'ai aussi une vie intérieure riche. Par exemple, vendredi dernier, j'ai parlé de David Bennett, cet Américain à qui on a greffé un cœur de porc. Ça a changé sa vie puisque depuis, il trouve des truffes dans son jardin. Maintenant, quand il fait des pâtes, tout le monde vient. Et là, on a appris qu'en 88, Bennett, en fait, avait poignardé un homme à 7 reprises dans le dos. Par jalousie, dit la famille de la victime. Ce qui est absurde parce que lui aussi a un dos. Hein, il fallait peut-être se retourner pour le voir, tout simplement. Bref, David Bennett est un salaud. Et pour lui, on a sacrifié un cochon qui, au départ, était prévu pour la soirée tapas de Manuel Valls. Hein, chaque samedi, il invite Castex, emballe chaque tapas dans son CV, se met à hurler « Prends-moi, enfin !» Puis au moment où Castex retire son bas en murmurant « Avec un MeToo, ça devient risqué, ce genre de conneries hein. !» Eh bien, Valls hurle « Ah non, mais moi, ce que je veux, c'est juste un job. » Bon, on tue un cochon, peut-être le petit-fils de l'acteur qui a joué dans Babe, hein, oui, pour permettre à ce pauvre type de vivre. Mais c'est écœurant. Mais les médecins de l'hôpital, eux, disent « Tout hôpital a l'obligation morale de fournir les soins vitaux aux patients qui franchissent ces portes. » Alors, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une série de tests. On présenterait aux patients un chaton, un sac, une baignoire et une croquette. Si le patient donne au chat la croquette en le caressant, on le soigne. S'il donne au chat la croquette en le caressant et en disant « Comme il est doux, ça me rappelle ma petite nièce », on le vire. Si chante « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion, on le vire. Si fredonne du Miles Davis, on le garde. Si ses organes freinent du Miles Davis, on le soigne aux urgences gastriques. Voilà, des illusions. David Bennett est un salaud. On aurait dû lui foutre dans le corps une saucisse sèche Justin Bridou et le lâcher dans un apéro entre potes. Et hier, je lisais un article sur l'éruption volcanique aux îles Tonga. Jean-Michel Blanquer a été obligé de faire changer son billet hein, ce week-end. Du coup, il se rabat sur Punta Cana. Alors, il y a eu éruption sous-marine plus tsunami. Dans le Figaro, il est écrit, je cite, « Des vagues de 15 mètres de haut ont déferlé sur la capitale dont les habitants ont fui vers les hauteurs, tandis que des roches tombaient du ciel. Wow. » Ça, normalement, c'est un pitch de film catastrophe. Ouais. Hein, y a un scientifique incarné par Pierce Brosnan qui déboule et dit « Ah, ça, c'est le changement climatique. C'est qui qui a jeté son verre dans la poubelle normale ?» Hein, il sauve une fille en criant « Attention, c'est pas moi qui te rends un peu hot, bébé, t'as les pieds dans la lave. Hein, » Puis cette dernière l'épouse. Bon, comme elle n'a plus de pieds pour la nuit de noces, Brosnan tente une vanne du genre « Bon, bah, du coup, je vais te faire prendre ton genou. » Hein, et là, bon, c'est la fin du film. Oui, je sais, je devrais travailler à Hollywood, mais je suis très attaché au service public. Voilà. Ouais, et si c'est pour tomber sur Gwyneth Paltrow qui fait son yoga sur la plage entouré de bougies parfumées. Hein, merci. Si je veux me confronter à des odeurs, je vais au meeting de Mélenchon où je demande à rencontrer Jean Lassalle ou les Bogdanov, mais dans 15 jours. Donc, aux îles Tonga, il y a des morts, mais comme c'est loin, on s'en fout. Si des roches tombaient du ciel sur Lyon, là, on se dirait, c'est trop bête, Pastureau devait y jouer le 28 janvier. Ben, voilà, ça c'est pour libérer Leïla en fin de chronique que je fais ça. Et surtout, à BFM Lyon, ils auraient un truc à filmer, parce que ça fait 3 ans qu'ils font que des agressions devant le Franprix. Ben, depuis que la mairie est écolo, bon, les gens s'agressent à coups de bambou. Mais enfin, ça reste des agressions. Bref, hier, je lisais que la première personne identifiée parmi les gens décédés au Tonga était Angela Glover, une Britannique qui tentait de sauver ses chiens parce qu'elle avait un refuge. Et je me suis dit, d'un côté, on a Bennett qui plante un mec et est sauvé, et de l'autre, Madame Glover qui sauve des chiens et meurt. Et ça m'a interrogé sur l'existence de Dieu. Je sais, la chronique est chargée, mais la prochaine, promis, je lirai juste des déclarations de Marlène Schiappa. Oui, regardez-moi les amis, ce midi je défie l'éternel, celui qui est tout là-haut, le voisin de palier de Thomas Pesquet. Je remets en cause son existence. Qui nous dit que les cathédrales n'ont pas été construites uniquement pour que Bruno Pelletier en 98 connaisse le succès? Les juifs, persécutés depuis toujours, qui continuent à croire, est-ce qu'ils font pas ça juste pour se retrouver le vendredi en famille et aligner 70 plats sur la table pour 9 personnes? Les musulmans, pareil, je comprends le principe, ça donne une raison d'être à cette barbe. L'explication de Chabal pour la sienne, si je trouve ça joli, enfin quelle vie d'intellectuel. Mais mais c'est quand même plus glam de se saper comme Dieu a dit plutôt que comme H&M a montré sur son site. Je comprends tout ça, mais quel dieu validerait la survie d'un tueur et la mort d'une dame qui sauve des chiens? Il a jamais vu de film de Noël, Dieu? Il a pas de repère par rapport à la démarcation entre le bien et le mal? Est-ce qu'il s'est fait retourner par Belzébuth? Oui, David Bennett est vivant, tant mieux pour lui, il a eu le cœur de Nif Nif quand il croise Naf Naf et Nouf Nouf, il leur dit j'en place une pour votre frérot. Mais sinon en France, juste un truc, il y a le petit Joseph, 3 ans, qui atteint le leucémie, qui attend un don de moelle osseuse pour guérir. Alors, faut avoir entre 18 et 25 ans. Il y a juste une prise de sang à faire. C'est pas grand chose. Le petit a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Lui, il n'a planté personne. C'est la vie qui l'a planté. Le site, c'est dondemoelleosseuse.fr. Donc, les jeunes, allez-y. N'attendez pas le résultat sur l'interrogation à propos de l'existence de Dieu. Faites le boulot vous-même.
Bravo. Merci. Times Square est au théâtre à partir de ce samedi, c'est à 20h30, j'ai oublié de le préciser, au théâtre Montparnasse.
Ça dure 1h30, à 10h t'es au resto.
Une heure,
là on est dans la musique du film, de la pièce.
Musique de la pièce.
Il y a aussi... Moi j'aime bien qu'il y ait des BO également dans les pièces de théâtre, c'est le cas avec Times Square, interprété par Camille Aguilar et Guillaume de Tonquédec qui sont des invités jusqu'à midi et demi. D'autres événements culturels également, Leïla.
Voilà, jingle à la jingle. Bouche, ouais. Pas mal. Et un petit tapis, wow, merci beaucoup.
C'est beau.
On va parler d'une chanson aux États-Unis, on l'écoute. Cette chanson a eu un effet assez incroyable aux États-Unis. C'est la chanson du rappeur Logic. D'après vous, quel est l'effet produit par cette chanson?
Un scandale.
Non, au contraire. Au contraire. C'est en lien.
Je l'ai lu.
Ouais. Tu dis quoi?
C'est pas chez le psy, mais c'est en lien. Et c'est. On pourrait faire un parallèle aussi avec la performance de Stromae sur le plateau de TF1.
Mmh. Les gens se soignent ou il y a
En écoutant ça, soigne un peu la dépression.
On n'est pas loin.
Un playback.
On n'est pas loin. Non, je vais vous aider parce que c'est compliqué. Le titre de la chanson qu'on vient d'écouter, c'est un numéro de téléphone. Hein. Et c'est le numéro de téléphone, le numéro de ligne de prévention des suicides aux États-Unis.
Ouais. Okay.
Dans l'histoire de ce morceau, il est évoqué un jeune homme qui est harcelé et qui veut mettre fin à ses jours et qui va finir par contacter ce numéro et ainsi ne pas se suicider.
Génial.
Et bien, cette chanson, selon une étude, a permis plus de 10 000 appels supplémentaires.
Et donc de sauver autant de vies.
Absolument. Une baisse de plus de 5% des suicides aux États-Unis chez les 10-19 ans. Ça fait à peu près 250 morts évitées. Donc voilà comment une chanson, a priori, comme ça, juste.
Alors qu'avec le temps de Léo Ferré, a entraîné 100 000 suicides.
Pas vraiment de question à l'issue de ça. On a parlé avec vous tout à l'heure, Camille, d'un rôle d'une jeune adolescente qui a été violée. Et on a vu en quoi votre métier n'était pas simplement être auto-centré et penser à son plaisir, à ses sentiments. Est-ce que dans votre filmographie, Guillaume, il y a un rôle en particulier où vous avez senti qu'il pouvait avoir un effet chez les spectateurs?
Moi, je crois qu'un comédien, d'abord en dehors du plaisir et de l'ego, parce qu'on en parle dans la pièce, on se fait plaisir, on est des nombrils sur pattes, ça c'est quand même vrai, hein, les comédiens. Il y a trois êtres d'êtres humains, il y a les femmes, les hommes et les comédiens. c'est quand même vrai. Je pense qu'on fait de la politique quand on choisit un rôle, même dans les comédies justement, et que ça permet de faire réfléchir et de faire rêver. Donc s'il y en a un, je ne sais pas, c'est un film qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Arrête avec tes mensonges, de Olivier Péillon, que je viens de tourner.
Et c'est celui où tu
fais... Nuit d'été, où je fais un homme qui se transforme en femme pour trouver la femme idéale qu'il aurait pu être, de Mario Forfani. J'adore ce film.
C'est le livre de Besson.
Livre de Besson, Arrête avec tes mensonges, qui sortira peut-être à l'automne prochain, je ne sais pas encore.
Et le lien entre le théâtre et l'information qu'il a donné tout à l'heure sur le SOS suicide, on peut faire le clin d'œil à SOS Amitié, qui était utilisé dans Le Père Noël est une ordure, et redonner ce numéro, parce que ça existe vraiment, SOS Amitié.
Donner ce numéro, oui.
09 72 39 40 50. 09 72 39 40 50. On pourrait simplement dire peut-être au Télécom de trouver un numéro plus simple et plus rapide à retenir pour SOS Amitié.
C'est vrai.
Comme il peut y avoir le 119 pour le 119, donc le 119 pour les enfants qui ont besoin de parler s'ils ont le sentiment qu'on les maltraite ou on fait des gestes inappropriés.
Et sinon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit les télécoms.
Les télécoms.
Les télécoms.
C'est vrai, fanfare.
Ah, en fanfare.
Autre question, un sport va changer de nom.
Le Quidditch.
Bravo, incroyable.
Le sport d'Harry Potter.
Absolument.
Qui existe vraiment,
mais c'est oui,
existe vraiment. Tu vois pas ça au bout de Boulogne et tout?
Si,
depuis 2005, je vais vous expliquer si vous voulez. Depuis 2005, il y a du Quidditch. C'est deux équipes de 7 joueurs sur des balais qui s'affrontent sur un terrain ovale. Ça vole pas, Nagui.
C'est un terrain ovale.
C'est ce que j'allais dire. Ça vole pas, en tout cas.
Avec à chaque bout 3 anneaux à des hauteurs différentes en guise de but, comme vraiment dans la série.
Et comme au basket, quoi, en fait.
Et pour remporter le match, il faut marquer le maximum de points ou attraper le vif d'or, toujours. Sauf que ce sport-là, les gens qui le pratiques et les ligues qui se sont créées autour de ce sport veulent changer de nom pour deux raisons. La première, c'est que il y a eu des propos transphobes de J.K. Rowling, donc ils ne veulent surtout pas s'associer à ça.
Elle s'est justifiée.
Non, elle s'est pas vraiment justifiée. Donc ils sont pas contents et on respecte leur mécontentement. D'autant plus qu'ils expliquent que leur sport, en fait, c'est un sport qui est vraiment basé sur l'égalité de genre et l'inclusivité, au sens où il y a 7 joueurs, mais tu peux pas avoir plus de 4 membres du même genre. Donc l'idée, c'est vraiment dans l'idée même de ce sport-là, il y a cette volonté d'embrasser absolument tout le monde. Et puis, ils aimeraient aussi changer de nom parce que si on veut qu'il y ait des retransmissions télévisées, il faut pouvoir s'abstraire des studios de la Warner et ainsi être un petit peu plus tranquille.
Et alors, quel nom ont-ils trouvé?
Curling, parce qu'on ne s'en sert pas. Pour l'instant, on ne l'a pas encore. Est-ce que
les volants.
On parle d'Harry Potter et de saga en littérature, en bouquin. Qu'est-ce que vous aimez lire, Camille?
En ce moment, j'aime bien mais il n'a pas fait de saga. Il s'appelle Benjamin Wood. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis en train de lire ses bouquins et j'aime beaucoup parce que c'est un univers où il met il y a plein d'éléments, tu sais pas tout d'un coup, il change d'environnement, donc j'adore. Là, je suis avec des peintres, avant c'était avec des jeunes de la société, autres sociétés qui ont beaucoup de thunes, enfin c'est très différent.
Et vous, Guillaume, on sait que vous aimez beaucoup lire, vous êtes un grand lecteur. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment?
Moi, je viens de relire beaucoup de livres de Philippe Besson, justement, pour préparer ce film dont je parlais. Et j'ai même demandé à le rencontrer. Il est venu sur le tournage aussi. C'était très, très passionnant de pouvoir rencontrer un auteur qui vous touche, quoi. Donc, qui vous émeut. Et là, c'était le cas. Donc, j'étais très content de rentrer dans ces livres, dont Arrête avec tes mensonges, notamment.
Pour parler de l'avenir immédiat à Times Square à partir de samedi au Théâtre Montparnasse, 20h30, pour cette pièce de théâtre que vous allez jouer, Camille Aguilar, vous serez prochainement à l'affiche de Piggy.
C'est un film espagnol.
Racontez.
Ça s'appelle Cervita et c'est un film qui est réalisé entièrement, presque entièrement par même produit par des femmes. C'est un film thriller d'auteur espagnol et c'est incroyable. Ça parle juste vous savez quoi? Ça parle d'une jeune. Non, ça me fait penser. Ça parle d'une.
Vous êtes combien dans votre tête?
J'essaie de me calmer. Ça parle d'une jeune fille de genre 16 ans qui se fait bullied par des gamines.
Et ça fait quoi, pardon?
Harcelée parce qu'elle est obèse et en Espagne, en France aussi, mais. Bon, on va dire qu'il y a beaucoup ce rapport au corps jeune, les ados, ils sont odieux, et ça fait des années qu'elle le vit, et on est dans un petit village en Espagne, donc ça parle aussi socialement de tout ça, et du non-dit, et de tout ça, il y a un meurtre, et il y a quelque chose qui se passe.
Très bien. Et quant à vous, Guillaume de Tonquédec, vous serez à l'affiche du Temps des Secrets de Christophe Baratier. C'est du Pagnol, mais c'est...
La troisième, c'est la trilogie, c'est le troisième.
C'est le troisième des bouquins de la trilogie, des souvenirs d'enfance, où dans les deux premiers, le château de ma mère et
la
gloire de mon père, c'est dans l'ordre inverse d'ailleurs qu'il les a écrits, il parle de l'amitié, de la naissance de l'amitié, et là il va parler de la naissance du premier sentiment amoureux aussi, et ce petit Marcel va tomber amoureux pour la première fois, il va trahir un peu son amitié, va découvrir qu'il peut avoir des secrets pour ses parents, et il va découvrir que ses parents aussi ont des secrets, voilà, le temps des secrets.
À l'affiche avec vous, Anne Charrier,
Mélanie Douté et François-Xavier
Demaison. Ouais. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour toutes les associations de protection de l'enfance qui ont été horrifiées, choquées, tambourinées suite à la chronique gaminophobe de Florence Mendez. Alors je vous comprends, c'était vraiment scandaleux. Je vous propose que vous portiez partie civile pour faire un procès à cette infâme sorcière belge. L'attaquer, elle et aussi son association, peut-être l'ADMF, les amis de Michel Fourniret. Désolé pour Monsieur Boudadi, qui, on l'a découvert ce matin, avait plutôt intérêt à protéger ses arrières. Écoutez ce que dit Leïla, ce qu'elle fait avec le cul des mots.
Moi, je remplis.
Elle remplit. Bah ouais, mais tant qu'il y a consentement, on n'est pas là pour juger. En revanche, la direction de l'Info de France 2 a appelé. Tu as attendu à la compta. Mais comme souvent, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre.
C'est vrai.
Lila, tu as attendu à bras ouverts pour signer un contrat chez Jackie et Michel.
Voilà.
Désolé pour Camille Aguilar, qui m'a confié à la pause avoir certes découvert la maison de la radio, mais aussi et surtout avoir vécu ce matin le quotidien atroce d'un EHPAD avec des vieilles dames qui soutiennent le dos plié des animateurs télé lubriques, des comédiens has-been qui claquent des doigts pour marquer le rythme en écoutant du Queen. Sa plus grande trouille, c'était que quelqu'un meurt de vieillesse en direct pendant l'émission. Allez, reste 10 secondes à tenir, les gars.
Allez, Nagui.
Merci. C'était la dernière.
Oh, elle est super. La garde.
Merci Camille, merci Guillaume de Ton Québec au théâtre, donc Times Square, à partir de samedi. Demain, nous recevrons Alma Jodorowsky et Stéphane Strecker. Normalement, nous devions recevoir Jérémy Régnier et Alma Jodorowsky. Jérémy, comme la famille du cinéma, est endeuillé par la mort de Gaspard Ulliel et on comprend totalement qu'il préfère se recueillir auprès des siens et de sa famille. Et d'ailleurs, demain, nous rendrons, au-delà de parler du film de ce thriller qui s'appelle L'ennemi, nous parlerons et nous évoquerons Gaspard Ulliel en réécoutant ses musiques préférées, sa bande originale et sa manière de raconter le sentiment qu'il a d'être finalement dans le cinéma par hasard ou de se laisser guider par la vie trop courte. Et on adresse encore une fois tous nos sentiments les plus chaleureux à toute sa famille. Passez une très bonne journée sur Inter et profitez justement de la vie. À demain.